auditeurs, enfin c'est l'heure. Vous êtes conviés dans le bureau des commissaires.
Yeah, on est dans le bureau des commissaires avec Alain Gratte. Salut Alain.
Allô, Alain.
Silver Fox.
Salut messieurs, comment allez-vous, monsieur Delorme? Comment allez-vous?
Ça va bien toi?
Ça va très bien, on s'est croisés hier, justement.
Oui, absolument. Toi, tu rentrais pour ton chiffre, moi, je m'en allais à la maison.
T'es-tu couché tard, Alain?
Et ta barouette,
sûrement.
Ben, déjà en partant, quand on a vu que les lumières étaient éteintes, on dit ça commence mal.
Ben oui, 15-20 minutes de délai en plus, ta barouette.
Ouais, non, mais écoutez, on s'attend. Là. Mardi prochain, ça va être encore pire. Le match commence à 10h30. Là.
Ça fait exact.
Donc, hier, 8h30, là, on peut vivre avec ça sans problème. Même 9h à soir, c'est pas si pire.
Ouais, ça valait la peine, par contre, de veiller jusqu'à la fin parce que quelle manœuvre d'Ivan Demidov en prolongation.
Ouais.
D'après moi, Alain, le Canadien ne perdra pas beaucoup de matchs à 3 contre 3 cette année. Là.
Ben écoute, hier, ça a été ça parce que entre les deux équipes, le Canadien avait beaucoup plus de talent que les Flames de Calgary.
Oui.
Alors, c'est sûr que dans une situation de 3 contre 3, il y a beaucoup d'espace sur la patinoire. Le Canadien est une équipe qui patine beaucoup mieux que les Flames de Calgary. Là, on l'a vu, la vitesse du Canadien hier était nettement supérieure à celle des Flames. Alors, c'est sûr que ça confère un avantage assez important aux Canadiens dans ces situations-là. Surtout face à un club comme Calgary. Tu sais, je vais vous dire, ça a commencé à s'animer un peu à partir de leur quatrième jeu de puissance en deuxième période. Parce que en deuxième, jusque-là, là, on commençait à boyer au cornet, les autres, là, ça passait pas grand-chose. Et là, il y a eu la fin de la deuxième, là, les Flames se sont comme réveillés. Puis en troisième, on a eu un bon spectacle, finalement. Mais je pense que ça va être un club qui va être dans la course pour Gavin McKenna, ça, les Flames de Calgary. Là. Il faut penser à ça parce que il n'y a pas beaucoup de talent. C'est au pic papel. Ça
ils rajeunissent beaucoup. Beaucoup de tirs au but, par exemple, Alain. C'est quand même 37 tirs au but hier.
Ouais, mais tu sais, jusqu'à la fin de la deuxième, Gilbert, tu avais bien des lancers qui venaient de loin, par exemple.
Ouais.
C'était en troisième, par exemple, ça, les Flames, vraiment, là, ont eu des tirs de qualité, puis, tu sais, en fin de deuxième, Kadri a frappé le poteau, là, ça a commencé à être plus sérieux. Mais jusque-là, je trouvais que, tu sais, en attaque, là, il n'y a pas beaucoup de talent, t'as pas de marqueur naturel, t'as pas de Demidov, t'as pas de Caulfield, t'as pas de Suzuki de l'autre côté, là.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, ça va être difficile, les Flames. Puis d'ailleurs, hier, depuis leur victoire contre Edmonton,
premier game de l'année.
Match,
ouais.
C'est ça. Depuis ce temps-là, hier, c'était le 8e but seulement qui marquait les Flames. Il y en avait réussi. Le 9e, je pense. Mais il y en avait, écoute, là, c'est à peu près une moyenne d'un but par match qui marque depuis le début de la saison.
Tu pensais, toi?
Ouais, ça, c'est vraiment pas bon, effectivement. Mais quand même, crédit à Jakub Debeche, qui a été très solide devant son filet. D'ailleurs, c'est notre question du jour aujourd'hui. Commence-t-on à assister à une controverse de gardien? Je vous donne les résultats. Les deux sont égaux dans ma tête. 38%. Non, Montembeau est encore numéro 1, 41%. Et quand même, Debeche, numéro 1, 21%. Gilbert, es-tu d'accord avec les résultats?
Ben oui, Montembeau est encore numéro 1. Oui, selon moi. Mais en même temps, là, on l'a dit tout à l'heure, là, moi, c'est pas nécessaire que Sam Engold soit les deux cette année. Là. Puis si Debeche, il en joue 35, il en jouera 35, puis Monty en jouera 45. Pas plus grave que ça. Là. Puis s'il est hot, puis s'il y a un qui est hot, l'autre est moins hot, ben continue de le rider. Là.
Mm-hmm.
Tu joues bien, ah ouais dans le net. Tu joues bien, ah ouais dans le net, c'est normal. Puis ça fait une compétition aussi. T'sais, moi, je vais reprendre ma place. Mais la prochaine fois que je vais être dans le net, je vais en jouer une bonne. Fait que, tu sais, je lui donnerai pas le choix. T'sais, fait que là, c'est la même affaire ce soir. Là. Ce soir, c'est Montembeau qui goal. S'il en goal une bonne, là, ben encore demain matin, ça va être encore OK. On fait jouer qui demain?
C'est sûr.
C'est sûr qu'on va en parler, là.
Mais ben moi,
correct.
Je pense qu'on
c'est un beau problème.
Je suis d'accord avec Gilbert. Moi, c'est, tu sais, si, mettons, Debeche en goal une trentaine cette année, là, moi, je serais pas. Puis, Martin Saint-Louis parle souvent de compétition à l'interne. Tu sais, Slavkowski, est-ce que Demidov va se ramasser sur le premier trio? Est-ce qu'il va se ramasser sur la première vague d'attaque à 5? Puis là, c'est la compétition entre Slavkowski. Pourquoi il n'y aurait pas une compétition entre Montembeau et Debeche aussi?
Exact.
C'est pas. T'sais, ça vaut pour les gardiens, ça vaut pour les attaquants et les défenseurs.
Ben oui.
Ça vaut pour les gardiens.
Ben oui.
Mais je pense que, tu sais, pour l'instant, moi, je suis d'accord avec Gilbert. Montembeau demeure le numéro 1. Mais j'ai aucun problème si Debeche en joue 30-35.
Tu sais, puis comme tu as dit tout à l'heure, Deso, tu sais, Monty, c'est pas un goaler à 10 millions par année ou 11 millions par année. Là. C'est pas un Carey Price ou un Sergei Bobrovsky ou un. T'sais. Fait que, tu sais, who cares? Il fait 3,1 millions, puis Debeche fait 1 million par année. Si Debeche en joue 40, ou si Montembeau en joue 45, l'autre en joue 37, Who cares? D'abord qu'on gagne, c'est juste ça qu'on veut.
Qu'est-ce qui aide le plus l'équipe? Est-ce que les deux gardiens engagés dans le processus qui te permettent d'avoir une chance de gagner à tous les soirs? Tant mieux. Moi, une compétition à l'interne, je vois ça d'un bon œil. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une lutte pour le statut de numéro 1 avec le Canadien, mais on est peut-être en train de le voir. Là. Puis je vois pas ça nécessairement d'un mauvais œil. Daubèche, à date, là, fait tout un job et il mérite de voir plus d'action, tout simplement.
Pis, hier, on a vu en action du côté des Flames de Calgary Dustin Wolfe, qui s'est trouvé à être le finaliste à l'obtention du trophée Calder. Mais peut-être que ce sera Jakub Dobesh, le finaliste du trophée Calder cette année, parce que il est éligible à remporter le trophée cette saison. C'est Tony qui m'a mis la puce à l'oreille tantôt. Donc ça, ce sera intéressant à surveiller. S'il pourrait avoir une saison, le remporter, je serais surpris. Même être finaliste, je serais surpris. Mais peut-être qu'il pourrait venir brouiller les cartes. Les gars, un peu plus tôt à l'émission, on s'est un peu obstiné sur Mike Madison. Un débat honnêtement qui est plus ou moins important. Là. C'est plus une façon de voir les choses. Mais je vous pose quand même la question. Est-ce que Mike Madison a une super bonne saison cette année, selon vous, parce qu'il est à la recherche d'un nouveau contrat ou ça n'a absolument aucun rapport?
Ben moi, je pense que ça n'a aucun rapport. Mike Madison, c'est un professionnel. Il se prépare de la bonne façon, puis il joue de la bonne façon, puis on lui demande n'importe quoi. Il joue avec un, joue avec l'autre, joue sur le powerplay, joue pas sur le powerplay. Il ferme sa gueule, c'est un pro. Mm-hmm. C'est un pro, c'est une bonne personne, c'est un gars que tu veux avoir sur ton équipe. Moi, j'ai aucun problème avec Mike Madison.
Alain?
Non, même chose, parce que l'an dernier, souvenez-vous, il y a deux ans, il y avait une saison exceptionnelle. L'an dernier, Harry Hodgson perd sa place sur la première unité d'avantage numérique, puis tu sais, tout le monde parlait de Hodgson, puis avec raison, parce qu'en attaque, offensivement, il était vraiment extraordinaire. Mais Madison, à mon avis, écoutez, encore hier, là, je regarde les statistiques, là, il a joué 25 minutes, il a marqué le but gagnant, ça reste que, tu sais, au niveau de son coup de patin, il a pas ralenti, il a pas... Moi, je pense que c'est sûr qu'on peut toujours penser, parce qu'il joue son année de contrat, sa dernière année de contrat, puis on l'a vu dans le passé, des joueurs qui, soudainement, à leur dernière année, connaissent des saisons extraordinaires. Mais moi, je fais pas de lien entre les deux, honnêtement. J'avais pas pensé à ça.
Ouais.
Je pense que Matheson, c'est un très bon défenseur. Et là, cette année, il est dans une chaise avec Dobson, qui lui va très bien. Alors, et là, on parle plus de Matheson sur la première vague d'avantages numériques. Il sait qu'il est pas là-dessus. Fait que, tu sais, moi, je pense que dans sa tête, tout est clair, puis ça explique peut-être pourquoi il y a un début de saison aussi bon.
Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec vous, honnêtement. Je pense pas que Mike Madison, présentement, a cette motivation-là supplémentaire de contrat. Je pense que c'est vraiment un pro, qu'il se débrouille, peu importe la situation.
Ouais, il se comporte comme tel, en tout cas. Tu sais, à tous les soirs, c'est un effort qui est constant. Puis moi, quand on parle de contrat concernant Matheson, les gars, moi, je pense que Matheson va bien vieillir dans la Ligue nationale. Il y a des gars, tu te dis, ouais, lui, je suis pas sûr que ce contrat-là va bien vieillir, mais moi, je pense que Matheson, la manière qu'il se comporte, le fait que ce soit un très bon athlète, qui a un excellent coup de patin, moins de risques de s'entendre à long terme avec un vétéran comme Matheson, comme il peut y en avoir avec d'autres. Donc, je pense qu'on se dirige vers ça, là, tranquillement, pas vite,
On s'entend, Alain, que c'est pas Brad Marsh là, comme patineur. Là, les gars, je viens de vous perdre, mais Alain, c'est très bien ce que je veux dire.
Mais ce qui est intéressant...
La pieuvre, Brad Marsh, dans le temps que ça accrochait dans la Ligue nationale, t'as souviens-tu, Gilbert, t'as connu ça, toi, t'as joué dans ces années-là. Lui, il m'a dit à la fin que ses grands bras...
C'était le bon temps.
Mais c'est alléchant quand même dans la possibilité de signer Mike Madison, c'est d'avoir la même paire en défensive pendant 5-6 ans.
Mais oui.
C'est ça qui est le fun. On a trouvé un duo qui fonctionne et ça pourrait être le duo numéro 1 du Canadien pour encore plusieurs années. Gilbert, je veux m'adresser à toi parce que c'est pas nécessairement une situation avec le Canadien, mais c'est plus une situation philosophique. Mike Madison...
Comment?
Peu importe, c'est pas important.
Okay,
Madison est un défenseur sur l'avantage numérique et finalement, on le déplace pour le faire jouer sur le désavantage numérique. Toi, t'avais une fierté de jouer en désavantage numérique parce que t'as jamais joué en power play.
Non, dans le junior, oui, mais dans la Ligue nationale,
As-tu déjà vu des joueurs, as-tu déjà côtoyé des joueurs qui ont été passer de l'avantage numérique au désavantage numérique, qui se sont mis à babouner ou des choses comme ça, ou c'est pas fréquent? Les gens, de façon générale, acceptent leur rôle.
Ben, honnêtement, je pense que les joueurs acceptent leur rôle. Il faudrait que je pense, là, mais normalement, un bon joueur offensif, je vais prendre un exemple, mettons un Steve Yzerman à Détroit qui jouait sur le power play et qui jouait aussi. C'est des joueurs complets. T'sais, tu pouvais faire tuer des punitions à Joe Sakic.
Oui, mais c'est pas la même chose. Si tu lui enlèves le nanane de jouer en avantage numérique.
Honnêtement, là, c'est sûr que ça s'est déjà produit, mais j'ai pas de nom en tête. Mais il faut que tu sois. C'est pour l'équipe. C'est pour le bien de l'équipe. Je sais que intérieurement, là, ça se peut que tu sois en tabarouette. Là.
Mm-hmm.
C'est sûr, puis c'est normal, puis tu sois un petit peu en bon français, là, que tu sois un petit peu en crise, puis c'est normal. Parce que tu t'es fait enlever une anane, comme l'année passée, Matheson, là, il a pris ça comme un homme, je comprends, là. Mais dans son fort intérieur, lui-même, quand il s'en allait dans son char chez eux, là, il devait être en colique, Alain, là, pareil. Là. Il s'est fait enlever la première vague aux jeunes, mais il n'a pas babouné, il n'a pas respecté, puis ça n'a surtout pas paru dans son jeu.
Exact.
C'est ça qui est important.
Regardez, pour donner l'exemple, c'était pas, tu sais, on parle pas d'un gars là, de 100 points par année, mais regardez Josh Anderson, c'est un peu ce qui lui est arrivé.
C'est vrai.
C'était un gars qui était d'abord reconnu comme un attaquant de puissance, mais un joueur offensif. Mm. Et à partir de l'an dernier, on lui a confié des missions plus défensives, tuer des pénalités. Ouais. Et puis, c'est un rôle, tu sais, ouais. La fameuse chaise là, dont tout le monde parle, là, trouve ta chaise dans l'équipe. Mm-hmm. Ben, lui, il a trouvé la sienne, puis il a l'air à s'en accommoder très bien, puis il a l'air très heureux là-dedans. Là. Ça fait que,
ouais.
Mais tu sais, c'est sûr qu'on parle pas, là, on parle pas d'un Steve Eisenman, d'un Joe Sakic non plus, là. Mais quand même, c'est un gars qui avait un rôle plus offensif à l'époque.
Non, mais c'est un point intéressant que tu apportes, parce que ça démontre à quel point que le vestiaire du Canadien est sain présentement, puis je pense pas qu'il y a de clic ou de jalousie.
Quand tu gagnes, là, Tony, là.
Ah, c'est sûr.
Quand tu gagnes, ça aide en six balles.
Mais tu gagnais pas le 3 ans, puis tu gagnais pas le 2
ouais,
ans.
Mais peut-être qu'il y en avait un petit peu plus de...
Peut-être, mais ça reste que ce sont des joueurs qui ont appris à grandir ensemble et qui maintenant ont une belle chimie, puis ça se ressent sur la patinoire.
Penses-tu que Mike Hoffman se faisait enlever le powerplay qu'il devait chialer un peu?
Il devait être content.
Mais c'est ça.
Le bon Mike.
Il chialait quand tu jouais pas avec les bons joueurs. Là,
ils sont pas là. Ils sont plus là. C'est ça. On
a épuré le vestiaire.
Exact.
Effectivement.
Exact.
Gros coup de chapeau à Kent Hughes là-dessus. D'ailleurs, par rapport à Kent Hughes, dans à peu près 15 minutes, j'ai un sujet intéressant par rapport au directeur général des Canadiens à ne pas manquer. Mais au retour de la pause, deuxième partie du bureau des commissaires, Abel Guérin s'est prononcé sur Lane Hudson.
Ben oui, j'ai pogné ça. Là.
Hein, une citation qui plaira peut-être pas aux partisans des Canadiens de Montréal. Abel Guérin, au sujet de Lane Hudson. Évidemment, Abel Guérin qui est le directeur général de l'équipe américaine en vue des Olympiques. Hudson est un bon joueur, mais il n'y a pas de la place pour tout le monde. Je ne sais pas si son heure est venue pour se tailler une place avec l'équipe américaine. Est-ce que ça vous chatouille d'entendre ça, les gars?
Ah, oui.
Mais, Oui, mais j'allais dire, c'est un peu une déclaration. Tu aurais pu s'en passer, là. Mais quand tu regardes la liste des 44 joueurs, les 44 joueurs qui sont sur la liste américaine là, qui a été dévoilée la semaine dernière, je vais vous donner les noms, vous me direz ce que vous pensez que ces gars-là vont faire le club américain. Brock Faber.
Oui.
Quinn Hughes.
Oui.
Seth Jones.
Oui.
Charlie McAvoy.
Oui.
Jacob Slavin.
Oui.
Zach Werenski.
Oui.
Jake Sanderson.
Fort probablement que oui.
Ah, y a des bons défenseurs.
On est rendu à 7, là.
Il y a des bons défenseurs. T'as Adam Fox.
T'as-tu nommé Charlie McAvoy?
Oui.
OK, j'ai blanc.
Là, j'ai pas nommé Adam Fox encore.
Ouais. Qui était là au Four Nations.
Ben, Adam Fox...
Ah, mais il y a une grosse saison.
Fait que, moi, ce que je comprends pas... Je comprends... Il y a que 3 buts, 3 passes. C'est quand même un début de saison honnête, Adam Fox. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est d'abord qu'il a pas été invité au camp, là, cet été.
D'orientation.
Ouais, puis je comprends pas la déclaration. Tu sais, pense-les, mais dis-le pas. Pas compliqué.
Non, là, absolument. Absolument, ouais.
Dans ta tête, là, dans la tête des dirigeants, ça semble que leur équipe, là, ils savent où ils s'en vont. Mais tu sais, dis-le pas, c'est tout, là, puis invite-les. Puis t'as rien à perdre si, mettons, il y a une saison incroyable, puis on arrive en décembre, au moment où il faut qu'ils remettent les listes, que tu sais pas, tu peux changer d'idée à un moment donné. Là. Ça fait que, tu sais, pense-le, mais dis-le pas.
Ouais, le Canadien affronte le Wild. Le 20 janvier, on connaîtra déjà l'identité de l'équipe américaine. Si Hudson est ignoré par Bill Guérin et compagnie, moi je vous le dis tout de suite, Hudson va avoir une très grosse game contre le Wild du Minnesota.
Ouais, mais si
vous. Mais regardez comme samedi, il a joué contre les Rangers, puis c'est l'entraîneur de l'équipe américaine qui est derrière le banc des Rangers. Là.
Ouais.
C'est ce qui a. Tu sais, il a connu son meilleur match face aux Rangers.
Non. Mais si il va pas aux Olympiques, c'est-tu si grave que ça?
Contraire.
Une minute, là, parce que rappelez-vous l'année passée, là, Lane Hudson avant la Coupe des Quatre Nations commençait à se piler sa langue en ciboles.
C'est vrai?
Commençait à se piler sa langue. Il est pas gros, là, tu sais, puis il joue beaucoup de minutes, puis c'était la même affaire cette année encore, là. Il joue des grosses minutes, puis il est tout le temps là, 22, 23 minutes, 24 minutes par game. Il manquait de jus. Peut-être que le petit break, ça va lui faire du bien encore cette année, là. Je comprends les Olympiques, c'est une belle expérience, puis c'est un once in a lifetime, je comprends tout ça. Mais en bout de ligne, nous autres, on peut penser, les partisans du Canadien, on peut-tu penser un petit peu égoïstement, puis dire, hey, tabarouette, on veut l'avoir en top shape pour finir l'année?
Ça, c'est sûr. Puis quand on défile la liste des défenseurs qu'Alain vient de mentionner, la plupart dans cette liste-là sont établis dans la Ligue nationale depuis plus longtemps qu'un Lane Hudson. Puis ils ont fait leur preuve d'année en année aussi. Puis l'autre élément, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est qu'on aime dans ce genre de compétition-là des gars forts physiquement, avec un meilleur gabarit. Lane Hudson, ça entre difficilement dans ce portrait-là parce que des défenseurs offensifs dans la liste que vous avez donnée.
Il y a Quinn Hughes qui est là.
C'est Quinn Hughes va prendre la première vague d'avantage numérique. Lane Hudson, il va jouer où là-dedans?
Exact.
Puis il y a Werenski aussi.
Il y a Werenski. Puis Jake Sanderson peut jouer sur une première vague d'avantage numérique sans aucun problème. Donc, moi, c'est pas une surprise. Puis c'est rien contre Lane Hudson. Dans 4 ans, on va peut-être réviser le discours par contre.
Son temps va venir.
Même dans 2 ans. Lorsqu'on aura les Coupes du Monde, là, on aura l'occasion de s'en reparler à l'occasion. Hey, deuxième opinion pour Patrick Laine, en raison de sa blessure au bas du corps. En toute honnêteté, là, c'est-tu si grave que ça s'il ne revient pas au jeu tout de suite? Non, on jase pour vrai. Je ne veux pas écasser, tu sais, tout le monde, je ne veux pas qu'on s'acharne sur lui. Je vais juste poser la question, de la façon que le Canadien joue, c'est-tu si grave que ça si Laine ne revient pas au jeu de sitôt? Alain.
Non, d'abord à 5 contre 5, il n'apporte absolument rien. Et c'est un avantage numérique, mais encore là, il est sur la deuxième vague. Et là, je ne sais pas si c'est la nouvelle tendance de l'avantage numérique du Canadien, puis si ça va continuer. Mais on a de l'air à chercher pas mal plus Bolduc à la position de bumper que Caulfield au cercle d'engagement à la droite du gardien. Là. Hier, il y a eu 2-3 jeux en faveur de Bolduc. À un moment donné, il a réussi à marquer. Ça a l'air d'être plus le gars qu'on cherche avec le tir sur réception directement de l'enclave. Pendant que Caulfield était complètement dans le coin, lui, d'ailleurs, c'est lui qui a fait la passe sur le but de Bolduc.
C'est Suzuki.
Fait que, tu sais,
c'est Suzuki.
Suzuki, OK, excuse. Fait que, tu sais, est-ce que, si c'est la nouvelle tendance, as-tu besoin de l'aîné sur une deuxième vague puis son tir sur réception? Si c'est plus ça qu'on cherche, c'est sûr que, tu sais, ça te permet de diversifier ton jeu de puissance, par exemple. Si à un moment donné, là, les clubs vont s'ajouter, si c'est toujours Bolduc dans l'enclave, les clubs vont s'ajouter.
Ah, mais ça peut être Caulfield, ils vont switcher, tu sais.
Oui,
ça va être, c'est bien des choses. Puis Caulfield est beaucoup plus actif qu'un gars comme l'aîné sur le powerplay, on s'entend.
Oui, c'est ça, mais je veux dire, que ce soit Caulfield ou Laine, si la nouvelle tendance, c'est toujours Bolduc dans l'enclave, les clubs vont s'ajuster. T'as déjà Caulfield qui peut faire ça. Puis il fait sa première vague. La première vague, d'après ce qu'on peut voir, elle passe du temps sur la glace pas mal.
Mais ça.
Tu sais, là, Laine. Tu sais, déjà, moi, je suis un peu étonné de voir qu'il est encore avec l'équipe. Je pensais qu'il était pour partir cet été. Ça fait que, non, mais c'est sûr que si tu demandes une deuxième opinion d'habitude, c'est parce que tu veux savoir si tu vas être obligé d'être opéré.
Toi, Gilbert, comment tu vois ça, la situation Patrick Laine? Le fait qu'il est absent, c'est...
Moi, honnêtement, je te l'ai dit tout à l'heure, puis tu veux que je le répète. Là,
tu me l'as dit pendant une pause publicitaire.
Moi, honnêtement, je suis écœuré de... C'est toujours une distraction, mais jamais pour des raisons de sa glace. À propos de son jeu, il se passe de quoi? Il faut faire attention à sa santé mentale, puis tout ça. Mais là, il est parti pour une deuxième opinion. Moi, je trouve que c'est une... On parle de lui, mais jamais... Tu sais, j'aimerais ça parler de lui un matin, comme de quoi qu'il a scoré un but sur le powerplay hier, où il a fait un jeu défensivement, il a back-checké, il a coupé un jeu, il a coupé une passe. Mais non, c'est toujours... Ah, mais là, il a mal au genou, il est blessé, on sait pas comment le prendre. Il faut faire attention avec lui, parce que si on est trop rough avec, il va s'effondrer, puis... Ça me gosse, puis honnêtement, tout respect pour lui, puis tu sais, je souhaite le meilleur dans sa vie et tout ça, mais on l'a-tu vraiment manqué les 3 dernières games, là?
Mais je pense que le Canadien est une meilleure équipe présente.
L'as-tu manqué avant? C'est ça, à 5 contre 5, il t'amène quoi, Anthony?
Mm-hmm.
Si c'était 2 powerplays, Alain, dans toute la game, là, 2 powerplays dans la game, là, ben ça veut dire que Laine va jouer 2 minutes sur le powerplay, 1 minute sur chaque vague, whatever.
Mais mettons, Josh Roy, par rapport à Laine.
Hier soir, le Canadien a eu combien de powerplay? 1?
Je pense qu'il en a eu 2.
Il n'a pas une tonne, c'est ça, là. Fait que si tu vas avoir...
Il y en a eu 3.
Tu vas avoir un spécialiste du powerplay.
Ah, il y en a eu 3, mais il y a une punition qui était overlap, là, qui a comme eu 4 contre 4 pendant une 45. Là.
C'est sûr que ça a duré 10 secondes.
Ouais, exact.
Tu vas avoir un spécialiste du powerplay, il va jouer 1 minute et 30 sur le powerplay. Calvados, à 5 contre 5, on génère rien.
Tony, je te pose la question.
Ouais, puis on a la preuve actuellement... Que Evans, Anderson et Gallagher, c'est un bon trio.
Ben oui.
Encore plus sur la route. Regardez le temps de glace de Jake Evans hier. C'est un gars qui est fiable, sur qui on peut compter. Puis je pense qu'à l'aile, dans un trio identifié comme tel, avec plus de robustesse, plus à l'aise défensivement, je pense que l'entraîneur est beaucoup plus confiant d'envoyer les 3 ensemble sur une présence en défensive que quand Laine est là. C'est pour ça que le fit pour Patrick Laine actuellement, avec les arrivées de Demidov et de Bolduc, ça devient plus dur à justifier. Là. Ça devient plus dur à mettre dans la formation parce que faut qu'il soit top 6, mais il y a des meilleures options que lui sur le top 6. Et en arrière, avec les trios de soutien, ben, il compte plus ou moins là.
Tu peux pas le faire jouer sur un troisième, quatrième trio.
Ben, ça vient dur.
Ouais, parce que ça va être intéressant à surveiller.
L'autre chose, c'est il est tellement lent à part ça. Le Canadien, là, un de ses atouts, c'est sa vitesse.
Absolument. Mm-hmm.
C'est un club de rapide. Mais lui, il ralentit le jeu quand il est sur la glace parce qu'il n'est pas capable de suivre la parade. Il est trop lent.
Ouais, j'ai hâte de voir. Est-ce que c'est en raison, justement, qu'il y a quelque chose qui... qui l'incommode, c'est-tu la raison pour laquelle il était aussi lent? On verra quelle sera la décision qui sera prise après un deuxième opinion. Mais une chose est certaine, c'est jamais une bonne nouvelle, un deuxième opinion.
Il va arriver quoi? Là? Ils vont dire, OK, il faut que tu sois à l'écart pendant 4 semaines ou 5 semaines ou 6 semaines. Ça va être quoi, Tony? Ça va être, OK, là, on va voir Patrick Laine sur le bord de la bande en béquille à Brossard parce qu'il est arrivé quelque chose. Non, mais écoute, moi, ça me gosse, là. Puis là, à un moment donné, OK, là, il va revenir au jeu. Il va revenir au jeu quelque part au mois de décembre, whatever. Fait que là, au début, il va être slow parce que là, il a sa réhabilitation, ça a été difficile. Il est lent, c'est normal, il est lent, il est blessé au genou, tout ça. Ça va être un ongoing saga toute la calique d'année. Ça va être, moi, ça me gosse. Mais on n'a pas besoin de ça en ce moment, des distractions. Le Canadien va bien.
Je suis d'accord avec toi, sauf que l'année dernière.
Sauf que, t'es pas
si
d'accord
c'était
avec
pas...
moi, si tu dis sauf non, que. C'est comme ma femme,
non,
là,
je dis juste que, t'as raison cette année, je dis juste que l'année dernière, sans Patrick Laine, on n'affronte pas les Capitals de Washington au premier tour.
Mais t'as pas de leader, t'as pas de bonne.
C'est ça, puis peut-être que les buts que Laine a scoré, peut-être que Caulfield n'aurait scoré une couple de l'eau aussi, là.
Je suis pas en désaccord avec personne. Je suis d'accord avec vous sur toute la ligne. Tout ce que je dis, c'est que Patrick Laine, l'année dernière, a rendu de bons services aux Canadiens de Montréal.
Parfait,
je vois juste que maintenant.
On l'a payé pour ça.
On est peut-être prêt à tourner la page.
On l'a payé pour ça. C'est l'année passée, on l'a payé pour ça.
Oh, oui, il était payé. 8,7 millions.
Est-ce qu'il cadre dans qu'est-ce que le Canadien était prêt à bâtir? Bon, ben, la vitesse, l'entrain, l'enthousiasme.
La bonne nouvelle, c'est qu'il reste juste une année de contrat. Après ça, les prolongations de contrat. Là, demain matin, son agent m'appelle et il me dit 5 ans, 1 million par année, c'est non, je veux rien savoir. C'est la réalité. Même un an, 1 million, ça m'intéresse pas. Puis alors qu'il va probablement faire plus d'argent que ça ailleurs, je pense que ça ne fit pas avec le Canadien. Tout simplement.
C'est juste pas un bon fit.
Mais dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, est-ce que. Parce que c'est rapide partout, là.
Exact. On verra bien. Le meilleur fit. Là...
En plus, dans les prochaines années, là, t'as Michael Hage qui va s'amener avec le Canadien.
Exact.
T'as leur choix de deuxième ronde, le russe.
Zarovski.
Ça veut dire, il est très bon, lui, avec.
Ouais.
Fait que, tu sais, là.
Encore du temps, par contre.
À court et moyen terme, là. C'est un gars de même à court terme, c'est un gars que tu n'as pas besoin de lui dans l'alignement.
Le meilleur fit, c'est pas compliqué, c'est Alain Crête et le bureau des commissaires. C'est ça qu'on a besoin à tous les
le Silver Fox, the one and only Silver Fox, baby.
Alain, bon match ce soir.
Avec qui je négocie mes millions, là?
Mais... Oh, ça, bonne chance.
Allez, bon match ce soir et bon week-end, on se reparle lundi.
Allez.
Bonne fin de semaine. Salut,
bye-bye. La semaine dernière, je posais la question, les gars. Je vous demandais si on classait l'état-major du Canadien par rapport aux autres directeurs généraux dans la Ligue nationale, où se situerait le tandem Kent Hughes et Jeff Gorton? Ben, The Athletic a fait l'exercice. On a la réponse, puis je vous donne ça après la pause.